Thessaloniciens, un verset. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. Il écrit à cette église de Thessalonique et il dit « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Est-ce que nous sommes jugés dignes de notre vocation? La vie chrétienne et la foi chrétienne a une particularité, c'est qu'elle a certaines exigences. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, qui n'ont aucune exigence chrétienne dans leur vie, et en fait, ils usurpent ce nom de chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a entendu le message de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Quel était leur premier message ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, ça veut dire détournez-vous du mal, de la rébellion, de la vie vaine et sale que vous menez pour vous tourner vers Dieu. Mais on pourrait dire, mais c'est trop dur, Dieu est saint et moi je suis pécheur, je n'arriverai jamais. Mais se repentir n'est pas trop difficile, c'est se tourner en fait. C'est dire, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux autre chose dans ma vie, je veux la pureté, je veux la vérité, je veux l'amour. Et après, c'est Dieu qui fait le reste. Ici, il parle qu'il accomplisse par sa puissance tous les plans, les desseins bienveillants de sa bonté. Dieu est bon. Et c'est Jésus-Christ qui a fait tout le travail, si on peut dire, lorsqu'il est venu souffrir pour nos péchés. C'est lui qui a payé toute notre dette sur la croix. Quand on se repent, on n'a plus qu'à croire et saisir ce pardon que Dieu nous offre à travers la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait le lien, a fait la réconciliation avec Dieu. Et tout ce qu'on a à faire, c'est dire « Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, je ne veux plus vivre dans le péché, dans la rébellion, l'orgueil, l'égoïsme. Je veux que tu me pardonnes et que tu me sauves. » Et Jésus-Christ vous sauvera instantanément. Plusieurs ici, la plupart d'entre nous, nous pouvons en témoigner que lorsqu'on met sa confiance en Jésus-Christ, il nous sauve, il nous pardonne. Qui ici peut dire « Oui, moi je sais que je suis pardonné de mes péchés à travers Jésus-Christ. » Levez la main, voilà. Il y en a quand même pas mal, je pense, aujourd'hui. Et gloire à Dieu. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous pouvez leur demander à quelqu'un qui a levé la main, dire « Mais comment tu as fait? Comment ça s'est passé ?» Mais après qu'on a cru et qu'on a été pardonné, il y a la vie chrétienne. Il faut marcher avec Dieu. Et là, parfois, on ne marche pas à la hauteur de Christ. Lorsque les enfants de la reine d'Angleterre sont nés, et les petits-enfants après, dès leur naissance, on leur a dit « Toi, tu es fils, fille de roi, de reine. Maintenant, tu ne t'appartiens plus à toi-même. » Et leur vie a été compliquée. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Il fallait qu'ils apprennent des choses qu'ils ne voulaient pas apprendre. Et il fallait qu'ils aient une vie qu'ils n'ont pas choisie. Mais ils doivent être dignes de la royauté. Et quand il y avait des frasques dans la famille royale, tout de suite, c'était le scandale. Mais comment? C'est pas possible. Ils ne sont pas dignes de leur vocation. Eh bien, quand il y a des frasques dans l'Église du Seigneur, c'est pareil. C'est scandaleux. En tant que chrétiens, nous devons être dignes de notre vocation. Avec une différence par rapport à Philippe et les autres enfants de la reine, c'est que nous avons choisi d'être avec le roi des rois. Ce n'est pas qu'un jour on nous a dit ça y est, non. Nous avons accepté le Seigneur et nous sommes enfants de Dieu, dit la Bible. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Quand il dit que vous soyez dignes de la vocation ça veut dire de votre appel. Notre appel c'est quoi? La Bible dit vous êtes appelés enfants de Dieu si vous avez cru et vous êtes appelés saints. Nous sommes appelés des saints. Malheureusement, dans la tradition de l'Église de Rome au Moyen-Âge, on a commencé à vénérer, même avant le Moyen-Âge, à vénérer les martyrs. Et on a dit qu'ils étaient des super saints. Et que sur leur tombe, on pouvait être guéri de maladies, que si on touchait leurs os, il pouvait y avoir des miracles. Et c'est devenu les saints, voilà, les saints de l'Église. Mais dans le Nouveau Testament, les saints, qui sont-ils ? Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ce sont les saints. Alors on peut dire, mais oh là là, moi je ne suis pas saint. Eh bien, je devrais être saint si je suis chrétien. Je devrais avoir une vie qui est digne. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre à la hauteur de Christ? Il y a plusieurs raisons, j'en ai compté 5 au moins. Parce que nous, les hommes, nous sommes prompts à trouver des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. La première que l'on pense souvent, on dit « mais c'est trop élevé pour moi ». Les hauteurs de Dieu sont tellement élevées, moi je suis qu'un petit pécheur, je n'arriverai jamais à la hauteur de Dieu, je ne peux pas être digne de cette vocation, c'est trop dur, trop élevé. Et ça, c'est un manque de foi. Parce que si Dieu nous demande d'être digne de lui, c'est que c'est possible. Dieu ne demande pas des choses impossibles que l'homme ne peut pas réaliser. Dieu est extrêmement sage. La folie, ce serait de dire « faites quelque chose et vous ne pouvez pas le faire ». Comme on dit souvent, est-ce que si je vous demandais de vous soulever pendant que vous êtes assis sur votre chaise, soulevez-vous avec votre chaise. Je suis certain que 100% échouerait. Pourquoi ? Parce que c'est absolument impossible physiquement. Mais Dieu ne nous demande pas de nous soulever sur notre chaise. Il nous a donné son Saint-Esprit qui vit en nous pour accomplir sa volonté, pour faire ce qu'il nous demande. Et même, il y a un verset extraordinaire, mais maintenant il m'échappe. Voilà. Ce sera plus tard. Voilà. Il vient plus tard. Mais j'aimerais vous citer un beau verset qui est encourageant quand on est en bas et qu'on dit « Oh, c'est trop haut, je n'arrive pas à remonter la pente, je suis déprimé spirituellement, moralement. » C'est le psaume 61, composé par le roi David sous l'inspiration du Saint-Esprit. David était un roi, mais en même temps un chanteur et un poète. Et il composait des chants qui exprimaient sa relation avec Dieu. Et dans le psaume 61, sur des instruments à cordes, il chantait. Alors on ne connaît pas la mélodie. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge. » Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. J'aime bien cette image. Si vous avez été à la mer ou dans les rivières, il y a des rochers qui parsèment. Hein, et pour traverser, on veut sauter d'un rocher à l'autre. Et là, il y a un rocher qui est au-dessus et il n'arrive pas. Il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais. Il dit, Seigneur, conduis-moi, aide-moi à gravir cette montagne ou ce rocher. Et on peut faire cette prière. Seigneur, j'ai l'impression que la vie chrétienne est trop élevée pour moi, mais je ne veux pas manquer de foi. Je veux prier, Seigneur, conduis-moi sur ce rocher, parce que tu es mon refuge. Il faut de la foi dans la vie chrétienne. On marche par la foi, on vit par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est répété 3 fois dans la Bible. Et quand c'est 3 fois, ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que quand je me sens petit, découragé ou que je n'y arrive pas, c'est là que la foi doit entrer en action, un peu comme les vélos électriques. Vous connaissez les vélos électriques, c'est la mode maintenant. Vous avez une batterie, alors vous pouvez pédaler avec vos mollets, avec vos cuisses. Et puis, vous avez un petit bouton et vous pouvez l'allumer. Et là, la batterie se met en route. Et d'un seul coup, vous êtes le plus grand. Alors, je ne dis pas des noms parce qu'ils ont tous triché plus ou moins. Mais le plus grand des cyclistes. Et vous roulez à 50 km/h en côte, ou presque, hein, grâce à la batterie. Il y a même des cyclistes qui utilisent ça pendant les courses, en cachette, hein, les vélos truqués, où il y a un petit moteur dans le cadre. Ça s'appelle de la triche. Mais nous, dans la vie chrétienne, nous avons un petit moteur qui est un gros moteur, qui est la puissance de Dieu. Puissance, c'est un mot grec dans la Bible qui a donné le mot énergie et dynamique. Énergie et dynamique, tout ça c'est en nous, c'est l'esprit de Jésus-Christ en nous qui nous donne cette force d'aller sur le rocher qu'on ne peut pas atteindre. Alors ne disons plus « c'est trop haut », non, Si Dieu me demande de marcher avec lui et d'être irréprochable, par exemple, c'est dans la Bible, c'est possible. Et on doit même en faire un défi. On parlait de défi tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez aimé la série ou le film Les Incorruptibles. Pendant la prohibition à Chicago avec Al Capone et tout ça, il y avait tous les policiers. D'ailleurs, la police de Chicago est encore aujourd'hui corrompue. Ça n'a pas cessé. Mais il y avait une équipe des incorruptibles, des policiers. On ne pouvait pas les acheter. Personne n'a pu les acheter. Ils étaient prêts à mourir. Plusieurs sont morts sur le terrain. Et ils ont réussi à arrêter Al Capone et le crime organisé, les incorruptibles. Est-ce que je suis un chrétien comme ça? Il y a le mot dans la Bible. Soyez incorruptibles. Est-ce que je suis un chrétien défaitiste qui dit « Oh là là, de toute façon, il y a plein de péchés partout, alors moi aussi je vais y aller. » Ou est-ce que je suis un incorruptible? Non, je ne me laisserai pas tenter. Je ne me laisserai pas séduire. Et par la grâce de Dieu, encore une fois, c'est par la grâce de Dieu, parce que par nos propres efforts, on ne tient pas longtemps. Dieu ne veut pas des chrétiens frustrés qui sont là « je tiens le coup ». Non, on doit être libre. Et un chrétien libre, c'est un chrétien qui, par la foi, triomphe des tentations. On peut vraiment triompher des tentations, dire non. Je me souviens toujours de l'histoire de Joseph dans la Genèse, le fils de Judas. Joseph qui était en Égypte, serviteur d'un chef militaire qui était toujours absent parce qu'il était à la guerre. Et il y avait sa femme qui lorgnait sur le beau Joseph, l'esclave sur lequel elle fantasmait. Et elle est venue le voir un jour en disant « couche avec moi ». Et il aurait pu le faire. Franchement, c'était facile, le maître n'était pas là. C'est la maîtresse qui lui demandait, lui il était juste un serviteur esclave, il aurait pu dire « j'obéis ». Pour un homme, ce n'est jamais désagréable. Et il aurait pu dire « d'accord, mais bon, en cachette ». Et il a dit « je ne pécherai pas contre mon maître et contre Dieu ». Et il a résisté à cette femme au point qu'elle s'est fâchée, elle lui a arraché son vêtement et elle a dit qu'il l'avait violée. Et il est allé en prison pour ne pas tomber dans cette tentation. Il a dit « je ne pécherai pas contre Dieu et contre mon maître ». On doit être des chrétiens comme ça, qui ont de la foi pour résister, pour vivre à la hauteur de ce que Dieu nous demande. La deuxième excuse ou raison que l'on donne pour ne pas vivre à la hauteur de la foi que Dieu nous a donnée, c'est parce qu'on a souvent eu des échecs. J'ai essayé et je suis tombé. J'ai tenté, je croyais que c'était possible et puis j'ai raté. On peut avoir toutes sortes d'échecs, des échecs dans la foi, des échecs dans des prières. On a prié puis on n'a pas obtenu, on ne comprend pas pourquoi. On a essayé de résister à une tentation puis à un moment on a lâché. Ou ça peut être un échec dans le mariage, un échec dans l'éducation de ses enfants, un échec, peu importe, il y a toutes sortes d'échecs, échecs au travail. Mais le Seigneur nous aide à surmonter les échecs. On ne doit pas s'arrêter parce que tout le monde échoue, tout le monde faillit, sauf Jésus-Christ qui était parfait. Mais tous les hommes ont des échecs et on est dans la culture de la réussite absolue. Et le moindre échec, c'est vu comme une catastrophe, désespérant. T'as raté, t'es un bon à rien. Et c'est à travers les échecs qu'on peut avancer. J'ai toujours cette histoire d'Abraham Lincoln, qui est devenu président des États-Unis. Il a commencé à se présenter à des petites élections. Il était avocat au départ. Il se présente à une petite élection et il n'est pas élu. Il ne se démonte pas. L'année suivante, il se présente au poste au-dessus. Il se présente, il fait des discours, il se bat, il présente son projet, là, perdu. Et personne ne vote pour lui. Donc l'année suivante, il se représente à autre chose. Et jusqu'un jour, il a eu la vocation de présider les États-Unis. Il n'avait jamais été élu. Il avait toujours raté. Et il s'est présenté et il est devenu président. Il a gagné l'élection présidentielle. Et il est devenu un président qui a fait quand même des choses extraordinaires. Par la grâce de Dieu, c'était un homme qui lisait la Bible et qui avait foi en Dieu. C'est lui notamment qui a permis l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, ce qui n'est pas rien. Comme quoi, on peut échouer et puis gagner un moment. Et les échecs doivent nous apprendre des choses et non pas nous décourager. Pourquoi j'ai échoué? On peut comprendre la cause et s'améliorer, aller plus loin. Mais surtout, dans la foi, on a besoin de persévérance. J'aimerais vous lire Hébreux 6, 12, ce verset d'encouragement. C'est dans le Nouveau Testament, Paul aux Hébreux, enfin, c'est pas Paul. Hébreux 6, 12. Ne vous relâchez point, mais imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ne vous relâchez pas. Ne dites pas « je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais », mais imitez ceux qui, par la foi et la persévérance. Là encore, nous sommes à l'ère du tout de suite, hein, du fast-food. Donc je prie, j'attends que ça arrive dans l'heure qui suit. Mais combien d'hommes et de femmes de Dieu ont attendu des années ? Ils ont travaillé des années ? Des missionnaires qui ont été dans des pays, déjà il leur fallait 3-4 ans pour apprendre la langue et s'intégrer à la culture. Ce missionnaire William Carey, un des premiers missionnaires baptistes en Inde, il a appris plusieurs dialectes hindous et il a commencé à transcrire le Nouveau Testament dans ces dialectes. Il a travaillé des heures et des nuits, des mois, des années pour avoir ces Nouveaux Testaments dans toutes les langues de la région où il voulait annoncer l'évangile. Et puis un jour il y a eu un incendie, sa maison a brûlé et il n'avait pas de disque dur de sauvegarde. Il a tout perdu. Sur les cendres de sa maison, il s'est relevé, il a échappé, il n'est pas mort. Hein. Il a dit, bon, ben maintenant il faut recommencer. Et il a recommencé. Et il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas rien, c'était à la main. Il a tout recommencé. Ce sont ces personnes qu'il faut imiter. Il ne faut pas dire, oh, j'y arriverai pas, oh, j'ai échoué. Non, tu te relèves et tu repars par la foi parce que le Seigneur, s'il t'a mis ça à cœur ou s'il a promis, il va l'accomplir. Mais il faut persévérer avec la foi. Et c'est ça qui nous manque souvent, la persévérance. La troisième chose, c'est le manque de courage et la paresse. C'est trop dur, c'est trop fatigant, il faut trop d'efforts. Moi, ce que je veux, c'est une vie chrétienne facile. Je veux une vie chrétienne de loisirs. Il y en a qui vont jouer au golf. Moi, je veux aller à l'église et avoir un bon moment, mais je ne veux pas de difficultés. Jésus avait annoncé qu'il y a des gens qui rejetterait la foi à cause des difficultés. Mais quand on devient chrétien, on va suivre Jésus-Christ et il va y avoir des difficultés. Il faut le savoir à l'avance. Mais quand on aime le Seigneur, quand on a la vie éternelle, les difficultés, ce n'est pas ça qui devrait nous arrêter. Voilà. Le Seigneur m'a sauvé, j'étais perdu, j'allais en enfer, il m'a donné la vie éternelle, peu importe les difficultés, j'avance. Mais la paresse spirituelle, c'est terrible. La paresse spirituelle, ce n'est pas forcément qu'on a un poil dans la main ou qu'on est paresseux. Les vrais paresseux sont rares. Le paresseux, la Bible en parle souvent dans les Proverbes. C'est quelqu'un qui soit a peur, soit qui remet au lendemain, là aussi par peur d'échouer. Et c'est souvent lié à la peur, la paresse. Et on n'ose pas se lancer. Le paresseux dit « il y a un lion dehors ». Ça, c'est dans les Proverbes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce proverbe ? C'est que pour ne pas aller au travail, il reste à la maison en disant « Oh, il y a un lion dehors, il vaut mieux que je ne sorte pas aujourd'hui. Bon. » Mais c'est vraiment ça, la paresse, c'est lié à la peur. Or, la peur fait partie de la vie humaine et les courageux, les vrais courageux, sont des gens qui ont peur. On confond souvent le téméraire avec le courageux. En français, le téméraire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne sent pas la peur et qui fonce dans le tas et qui, en général, finit mal. Ça, c'est le téméraire. Le courageux, c'est quelqu'un qui a peur dans une certaine situation et qui surmonte sa peur pour gagner. Et il vaut mieux être courageux que téméraire. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il faut être courageux. C'est-à-dire, j'ai peur, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie là. Mais si j'ai pas envie, c'est qu'il y a un problème dans ma vie. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut que je Je demande au Seigneur, pourquoi j'ai pas envie? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai trop compté sur mes désirs aussi, et j'attendais d'avoir un désir pour faire les choses, mais je dois compter sur le Seigneur. C'est Philippiens 2, verset 13, qui nous donne une réponse de Dieu encore, magnifique. Philippiens 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est beau ça. Non seulement Dieu nous donne la force de faire, mais en plus il nous donne le vouloir. Parce que des fois on n'a pas le vouloir. Hein. Mais par l'Esprit de Dieu, on peut avoir ce vouloir. En fait, tous les matins, pour se lever, on a besoin de se vouloir et se faire. Tous les matins, on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que des fois, on resterait au lit, n'est-ce pas? Quand vous avez un ciel gris, quand vous avez la grève, quand vous avez pas envie d'aller au boulot, quand vous avez des collègues pas agréables, tout ce que vous avez envie, c'est de rester à la maison. Il y a un lion dehors, mais le Seigneur nous donne le vouloir, le faire. Seigneur, c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps le matin de lire une méditation sur la Bible, d'avoir une nourriture spirituelle dès le matin pour démarrer en connexion avec le Seigneur, parce qu'il nous donne le vouloir et le faire. C'est fou ce qu'on peut faire par le vouloir et le faire de Dieu. On peut accomplir des choses qu'on n'imaginait pas. On peut tenir des années. Alors que si on nous avait dit « tu vas devoir travailler dans telle chose et telle chose pendant 10 ans », on dirait « ah non, non, surtout pas, non, 10 ans, c'est trop ». Mais en fait, quand on regarde derrière, oui, ça fait 10 ans déjà, 15 ans déjà, comment c'est possible? Parce que Dieu m'a donné le vouloir et le faire chaque jour. Et ça, c'est important, à chaque jour suffit sa peine. La quatrième excuse ou raison pour lequel on ne vit pas à la hauteur de Christ, c'est parce qu'on a peur de renoncer à certaines choses. On sait que pour aller plus loin, il va falloir renoncer à certaines idoles, à certains péchés, à certaines choses qu'on tient, qui ne sont pas forcément impures en elles-mêmes, hein, mais ça prend la place de Dieu et ça m'empêche d'aller plus loin. Et ça, on sait en général ce qui nous empêche d'aller plus loin. Parce que si vous mettez à prier, « Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Montre-moi comment aller plus loin. » Le Saint-Esprit va mettre le doigt sur cette chose-là. Et en général, la prière s'arrête là. Merci. Je redemanderai plus. Eh oui, mais c'est là qu'il faut le courage de faire face. Seigneur, d'accord, il y a ce truc. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, de place dans ma vie. C'est vrai que ça m'empêche de progresser. Est-ce que je veux finir ma vie avec des regrets en disant « voilà, j'aurais pu aller beaucoup plus loin ?» Non, je n'ai pas envie d'avoir des regrets. Moi, je veux au contraire, hein, avancer, progresser. On peut toujours progresser à tout âge dans la vie chrétienne. C'est ça qui est merveilleux. Alors, on ne doit pas avoir peur de renoncer. Pourquoi ? Parce qu'on gagne plus qu'on perd quand on est avec le Seigneur. Matthieu 19, 29, c'est Jésus qui parle et qui nous encourage. Matthieu 19, 29. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Là, il parle des missionnaires, hein, notamment, qui quittent leur famille, leur pays, pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pas facile d'être missionnaire, de quitter tout votre cadre, votre confort. Vous vous retrouvez dans un pays étranger et on vous demande de parler du Seigneur à des gens qui sont pas toujours agréables ou contents. Eh bien, il dit, si tu renonces à ces choses-là, tu gagnes au centuple. Et je pense que c'est valable pour les idoles dans notre vie. Quand je renonce à une idole, eh bien, je gagne. Parce que Dieu me remplit le cœur de choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes. Il y avait cette expérience dans une cité en France. Pendant les mois de juillet-août, ils ont fait un programme sur le volontariat d'arrêter la télévision pendant le mois de juillet et août. Tout le monde a mis la télévision dans la cave, enchaînée. Ils ont dû mettre des cadenas pour être sûr que les gens n'allaient pas les reprendre. Et ils ont dit, voilà, vous avez 2 mois pour vous occuper, parce que c'est des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller en vacances, sans la télévision. Et le reportage, c'était à la fin, et les gens étaient ravis. Ils ont dit, c'est fou ce qu'on a pu faire comme truc, on ne s'ennuie pas. On a pu se parler, se connaître, jouer avec les enfants. On a fait plein de choses qu'on ne faisait plus ou qu'on ne faisait pas. On s'est retrouvés, ça a été une bénédiction. Comme quoi, voilà, des fois on se dit, oh là là, mais comment je vais vivre ou comment je vais faire? Eh bien, Dieu va se charger de te donner des activités, tu verras. Voilà, on peut aussi faire... Une semaine sans Internet ou sans téléphone. Il y a la journée sans Internet, la journée sans téléphone aussi qui existe. Et il y en a qui ont du mal à passer 24 heures, même 3 minutes. Et ça nous empêche de communiquer avec les autres. Hein. Il y a pas mal de choses humoristiques là-dessus, hein, où les gens, au lieu de se parler, se regarder dans les yeux, ils sont là avec leur téléphone en permanence. Je pense qu'en tant que chrétien, on ne doit pas tomber vraiment dans ce travers. C'est ridicule. Hein. Quand on le voit de l'extérieur, c'est ridicule. Mais quand on y est dedans, on ne s'en rend pas compte, en fait. Hein. Mais il faut décrocher, mettre dans la poche et commencer à se tourner vers les autres, à se parler. Et surtout qu'on a un message merveilleux à dire. On a de quoi partager tellement de choses. Le dernier point ce matin, c'est... qui nous empêche de vivre à la hauteur de Christ, c'est qu'on ne sait pas comment y arriver. On manque de sagesse pour y arriver. J'aimerais bien progresser, mais je ne sais pas par où commencer, comment on progresse dans la foi, comment on progresse. Je sais que je suis sauvé, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Où va-t-on? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. Mais simplement, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui lui donnera. Donc il suffit de dire, Seigneur, comment faire pour aller plus loin, pour progresser? Montre-moi. Et quand vous allez lire la Bible, quand vous allez aller à l'église, quand vous allez être dans la... vous allez voir, le Saint-Esprit va vous montrer plein de choses à faire. Plein de choses, comment progresser dans la vie chrétienne. Dieu veut nous donner sa sagesse. Pas notre sagesse, mais la sienne qui est parfaite et qui est bonne, qui est pacifique, qui est conciliante, pleine de bons fruits. C'est la sagesse de Dieu. Alors, Seigneur, je t'ai dit que ça me paraissait trop élevé, j'ai manqué de foi, mais maintenant je veux croire que je peux atteindre ces sommets que tu me promets dans la foi. Seigneur, j'ai manqué de persévérance parce que j'ai échoué, parce que j'ai eu des difficultés, mais maintenant je veux compter sur toi et être persévéré et croire en même temps. Seigneur, j'ai été paresseux, j'ai manqué de courage. Mais maintenant, je veux vraiment sortir de ma zone de confort et avancer par la foi. Seigneur, j'ai manqué d'amour envers toi. J'avais peur de renoncer à mes idoles. Mais maintenant, Seigneur, je te les dépose, je les mets à tes pieds. Je veux même les détruire pour que ces idoles ne soient plus un empêchement dans ma vie. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Seigneur, je pensais ne pas savoir comment y arriver, mais je te demande la sagesse. Que le Seigneur exauce nos prières. Mais il faut demander pour recevoir. Il faut croire pour obtenir. Il faut persévérer. Et il ne faut pas laisser aller, se relâcher, laisser tomber. Il faut se relever. Et le Seigneur nous donnera le vouloir et le faire. Je propose qu'on s'incline dans la prière. Et pendant qu'on se recueille, peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez peut-être essayé de vivre la vie chrétienne, mais vous vous êtes rendu compte que c'était impossible par vos propres efforts. Alors vous êtes mûr, vous êtes prêt pour être sauvé. Parce que c'est justement ça, c'est quand on abandonne nos efforts que l'on compte vraiment sur Dieu, sur sa grâce. Si vous êtes dans ce cas ce matin, déposez tous vos péchés au pied de la croix de Christ, et il va s'en charger lui-même. Il a payé pour vous, il est mort à votre place. Déposez tous vos péchés, repentez-vous sincèrement. Vous dites, mais c'est peut-être, c'est trop, je n'y arriverai jamais. Ne commencez pas à manquer de foi. Au contraire, croyez avec le peu de foi que vous avez, Seigneur, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je crois en toi. Je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Seigneur, vous pouvez lui prier, pardonne-moi mes péchés, tous mes péchés. Seigneur, lave-moi complètement. Et Seigneur, fais de moi ton enfant digne, que je puisse marcher avec toi tous les jours de ma vie sur terre, et que ma vie soit un reflet de ce que tu as fait à ta gloire. Si vous êtes déjà chrétien, mais que vous avez besoin de vous repentir aussi, nous avons vu plusieurs points ce matin. Prenez ce temps maintenant. Confessez vos péchés, il vous pardonnera, dit le Seigneur. Encore merci Seigneur pour toutes tes promesses et pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tu ne nous as pas laissé nous débattre tout seul, tu es venu toi-même, tu t'es incarné, tu as vécu une vie d'homme parfait et tu habites en nous par ton esprit. Merci Seigneur de ce que tu compatis avec nous. Tu sais ce que nous vivons, tu comprends notre faiblesse humaine, mais que tu nous donnes le vouloir et le faire. Merci Seigneur pour cela. Et je prie que tu nous, vraiment nous fortifie tous pour que l'on soit des chrétiens dignes de leur vocation et que l'on puisse refléter Jésus-Christ partout où l'on est. Aide-nous, Seigneur, à être des bons témoins de ta grâce. Et je prie, Seigneur, que tu relèves ceux qui sont découragés, abattus et qu'ils puissent se réjouir dans le Seigneur dès ce matin. Amen.